Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Immo.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, bien ici, bien chez vous. Nous sommes ici dans notre bonne vieille ville de Reims. On est ravis d'être avec vous puisque avec Bien ici, avec qui nous avons conçu cette émission, nous faisons le tour de France en parlant de votre logement, de votre immobilier. On est ici à Reims dans une ville magnifique. On va se poser, comme dans chaque ville, étape, les mêmes questions. Comment se porte le marché sur la ville intramuros? Comment on peut vivre bien dans la région à une encablure de Paris? Sur la métropole, quelles sont les tendances, les mises en vente? Aussi, les impacts que peuvent avoir l'immobilier, mais également les prix. Est-ce qu'on se loge bien ici à Reims? Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle avec nos experts. On va avoir un grand débat, justement, avec trois experts. On va parler, justement, des données du marché pour vous donner envie ici, de venir investir à Reims. Mais dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on voyage un peu avec quelques images. Un reportage réalisé par Alexandre Burkhardt. On l'écoute et on revient.
Bienvenue à Reims, une position stratégique déjà reconnue par les Romains qui y fondent l'une des plus grandes villes de la Gaule. Reims s'impose très tôt comme une cité majeure au croisement des routes commerciales entre Germanie, Île-de-France et Bourgogne. Car si l'on connaît Reims pour son histoire, c'est que peu de villes en France portent une telle charge symbolique. Ville des Sacres, elle voit Clovis baptisé en 496, puis accueille le couronnement de 33 rois de France. Un patrimoine unique. Incarné par sa cathédrale gothique, chef-d'œuvre ciselé et témoin de tant d'époques. Ravagée pendant la Première Guerre mondiale, reconstruite pierre après pierre, Reims a appris à renaître. Son architecture raconte autant sa grandeur que sa résilience. Aujourd'hui, Reims compte près de 190 000 habitants et plus de 320 000 dans son aire urbaine, une métropole de l'Est qui s'affirme, soutenue par une position géographique exceptionnelle, à 45 minutes de Paris grâce au TGV, au cœur du triangle Paris-Lille-Strasbourg, c'est un atout majeur pour son dynamisme économique. Elle bénéficie d'un label mondial, le Champagne. Reims n'est pas seulement la cité des rois, c'est une ville qui s'invente dans le présent. Elle est ambitieuse, accessible, connectée et toujours prête à montrer que son histoire n'est pas un héritage figé, mais une force pour l'avenir.
Eh bien, merci, vous êtes toujours avec nous pour Bien ici, bien chez vous, ici à Reims. Un immense merci à notre réalisateur Alexandre Burkhardt qui a tourné ces très très belles images. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du marché. Comment se porte-t-il? Comment il évolue? Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir pour notre première rubrique Thomas Barbier, directeur régional Île-de-France et Hauts-de-France chez Bien ici. L'état du marché, c'est maintenant.
Bien ici, bien chez vous, l'état du marché.
Mon cher Thomas, je suis ravi d'être avec vous. Alors, on sait que le marché locatif, Thomas, il est devenu extrêmement tendu, mais ça, c'est général un peu partout. Alors, on a des chiffres qui sont un peu différents d'une région à l'autre. Les amis, je vous le dis, hein, d'ailleurs, vous le savez, quand vous cherchez un appart pour votre enfant, par exemple, pour vous, un jeune actif qui arrive dans une ville, on a un marché locatif en volume d'annonces qui s'est rétréci quasiment de moitié, hein. On l'a vu,
oui.
C'est ce qu'on appelle une vitrification, on ne peut pas dire autre chose, du marché locatif. Est-ce que Reims échappe à la règle?
Hélas, non.
Et malheureusement.
Hélas, non. Reims fait effectivement, on suit un peu le trend qu'on observe maintenant depuis quelques temps sur les moyennes ou grandes villes, de toute façon, très national. 70% aujourd'hui de la demande porte en fait sur des biens alloués, et donc c'est un niveau extrêmement élevé. Donc qui n'est pas forcément très très rassurant, et donc nous on parle effectivement de tension locative qui est pratiquement à son maximal. Maintenant on observe aussi que cette offre locative, pourquoi elle est tendue, c'est qu'aujourd'hui on a divisé en 3 ans de 2,5 l'offre.
Ah ouais,
forcément
incroyable.
La demande s'accélère, l'offre diminue considérablement et forcément on se retrouve sur un effet.
Donc on est sur un vrai territoire en grosse tension.
Ah oui, c'est une grosse tension effectivement qui est très importante. Alors sur la transaction, c'est un petit peu différent parce qu'on a trois rythmes qui sont observés à la fois sur 2023 où on a effectivement un ralentissement de la tension. 2024 est plutôt une année de stabilisation et on ressent sur 2025 déjà des effets qui ont tendance à remonter en fait cette tension sur la transaction également. De manière générale, la demande n'a jamais véritablement baissé structurellement en fait sur la ville de Reims. Pour autant, elle a été toujours plus rapide que l'offre. Donc en fait, ça crée toujours ce souci en fait de pouvoir trouver le bien que ce soit en location et en transaction.
Alors, on le voit d'ailleurs, puisque nous avons des agents immobiliers de Reims qui sont avec nous dans le public. Vous ne les voyez pas, les amis, mais ils sont avec nous. D'ailleurs, on les entend, ne serait-ce qu'aux applaudissements, n'est-ce pas, mon cher public ? Merci d'être avec nous. Voilà, merci. Des agents immobiliers, d'ailleurs, qui sont bien évidemment aussi sous tension avec une offre qui n'a cessé de fonctionner. Parce que le territoire de Reims, mesdames et messieurs, il est hyper attractif. J'ai regardé les courbes démographiques, le rapport démographique, non seulement il est positif, mais il y a de plus en plus d'investissements sur cette région. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne trouve plus à se loger. 17% des contrats durée indéterminée dans votre région n'ont pu être signés, faute de logement. Donc on a même des entreprises, et je suis sûr que ça vous parle, qui ont des difficultés parfois à trouver. On va parler prix, si vous voulez bien, et on va avant tout se demander sur quelle typologie la demande se concentre-t-elle. Est-ce qu'il y a souvent des écarts forts entre le marché des appartements et des maisons, parce que c'est vrai que, fut une époque, les maisons étaient plébiscitées. Comment s'équilibre le marché entre les appartements, qu'on appelle le collectif, et les maisons individuelles ?
Alors, sur la partie tarifaire, aujourd'hui, on va dire trois constats. Sur les 2-3 pièces, on est sur un marché qui a, de toute façon, de manière un peu habituelle, en tout cas depuis quelques années, toujours été sur une évolution plutôt à la hausse. Donc en tout cas, on ne va pas dire sur des pics, mais en tout cas, c'est plutôt une évolution constante du prix sur les T2, T3.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effet spéculatif, comme on l'a connu avec la période post-Covid, sur des régions qui, finalement, avaient une cotation du marché qui était peut-être, entre guillemets, surcotée. Ici, on est sur un marché serein qui évolue graduellement.
C'est effectivement ce qu'on a pu observer dans la courbe des 5 dernières années sur les données de bien ici. Ce qui est un petit peu différent sur les 3-4 pièces, où on s'est aperçu pour le coup qu'il y avait de plus en plus en fait une réduction en fait entre les coûts du T3 ou du T4, ce qui en fait réduit véritablement en fait l'écart des deux typologies d'appartements en termes de coûts. En revanche, ce qui est à signaler, c'est sur la partie maison, où là on observe en termes de prix une évolution plutôt positive, notamment sur les maisons où on a cette dernière année, donc 2025, constaté une évolution de 10%, de 10 points, donc sur le tarif médian d'une maison à Reims, qui était à 300 000 euros il y a encore, donc en 2024, et qui est passé à 330 000 euros cette année. Donc c'est plus 30 000 euros qu'on a observé en termes de prix sur les maisons, sur la ville de Reims.
Donc ça veut dire finalement, parce que pour résumer, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, Thomas, quelque part, il vaut peut-être mieux acheter des appartements plus grands parce qu'au rapport au mètre carré, il sera plus faible en valeur que des T2 ou des T3. C'est bien ça ?
Alors, effectivement, on peut se poser la question...
J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte que plus la surface, on en parlera avec nos experts d'ailleurs également, et c'est un peu le sens de ce que vous dites.
Alors, oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les prix sur les T4 ont eu tendance à s'affaisser un petit peu, ça crée effectivement de l'engouement, mais l'écart n'est pas forcément très très important néanmoins. Ce qui fait que parfois le prix, du syndic, enfin de toute la vie en communauté qu'on peut avoir dans un appartement ou dans une résidence, eh bien on va s'exonérer de ce prix-là pour dépenser un petit peu plus sur 15, 20 ans, 25 ans en tout cas de crédit. On va absorber en fait le coût supplémentaire pour acquérir une maison. Et on le voit bien sur la tension aussi, sur les maisons, sur un, c'est un vrai souci.
Oui, et puis les maisons, encore une fois, ça ne va pas faire plaisir aux politiques, mais les maisons sont aussi un choix préféré des Français. Un petit bout de jardin, des communs, et on l'a vu d'ailleurs avec l'explosion après le Covid, pendant la période Covid, où effectivement, terrasse, jardin, du vert, de l'air, l'extérieur. Et de l'espace.
Voilà. Oui, tout à fait.
Du vert, de l'air et de l'espace. Alors, on va parler également, si vous voulez bien, on a parlé beaucoup de ces derniers mois de la diffusion des annonces, sur lesquelles le délai se raccourcit, puisqu'effectivement, il y a eu quand même... On a quand même passé entre 2023 et 2024 un sale quart d'heure dans la transaction. L'atterrissage 2025 semble se situer aux alentours des 930 000 transactions. On en parlera tout à l'heure avec nos experts, versus un peu moins de 900 000 l'an dernier. Donc on voit bien que le marché reprend des couleurs. Question, est-ce que ça bouge aussi assez bien sur la diffusion des annonces ?
Oui, on est clairement, de toute façon, reparti sur un marché plutôt sur une dynamique. Donc ce qu'on pouvait observer il y a encore quelques mois, il y a un an, on était à peu près sur une moyenne. On va dire sur l'agglomération rémoise, au total, on est à peu près sur 100 jours de temps de diffusion pour une transaction, donc pour un bien. Sur Reims, on est descendu en fait là sur le dernier trimestre à 83 jours. Donc on a gagné quand même près de 17 jours. Ce qui est quand même assez important et ce qui témoigne bien effectivement d'une dynamique, d'une reprise en tout cas, d'un engouement des recherchants.
Donc en moyenne, deux mois et demi, il y a une bonne rotation. Ça reste.
On peut observer. Oui.
D'ailleurs, cette question, je la poserai également à nos professionnels experts de l'immobilier et du marché. Alors, on va parler également de la tension du marché en matière justement de tension sur à la fois les prix, mais le fait de la reprise, c'est confirmé hein, sur 2025.
Clairement, le premier trimestre a annoncé clairement une tension qui était effectivement beaucoup plus forte avec une accélération de la demande.
On peut dire que le marché est reparti ou pas ? On peut le dire, ça, sur la région ?
Moi, j'ai envie de le dire. Maintenant, on va laisser nos experts s'exprimer. Nous,
on observe. Moi, je regarde vos datas. Hein, je regarde vos chiffres. D'ailleurs, quand on a préparé cette émission, bon, bah, la tendance, elle est clairement. On est passé du vert très pâle à un vert un peu plus foncé. On peut le dire déjà.
Je pense qu'il faut rester optimiste. Et de toute façon, je pense que 2025 reste une année qui est de rebond. Alors, certains appellent ça une reprise. D'autres appellent ça un rebond. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est mécaniquement, qui s'observe et qui plutôt indique des signaux positifs. Et nul doute que 2026 sera de toute façon une année de continuité et très constructive.
Oui, à condition qu'effectivement, on en parlera également avec les experts, que les taux d'intérêt ne connaissent pas une envolée aussi brutale qu'on l'a connue, bien évidemment. Si on élargit un peu à la métropole rémoise, Thomas, est-ce qu'on observe un peu les mêmes signaux, les mêmes tendances ?
Alors globalement, sur la métropole, on est effectivement, en termes de tension ?
Oui,
effectivement. On est effectivement sur ces mêmes niveaux de tension qui sont rythmés la même base, avec un premier trimestre en augmentation, un deuxième trimestre qui est beaucoup plus en stabilisation, en fait. D'ailleurs, on observe de manière générale plutôt un assez bon équilibre entre l'offre et la demande, qui s'est rétabli, ce qui est plutôt un signe positif. Et en revanche, sur le troisième trimestre, on est principalement sur un ralentissement de cette tension.
Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça stabilise finalement un peu l'offre et ça permet également en termes de prix d'arriver à trouver finalement des logements entre guillemets hein, abordables à des primo-accédants, puisque la baisse des taux d'intérêt ou le plateau des taux d'intérêt, plus la reconduction du PTZ a permis à certains de se remettre sur le marché résidentiel, ce qu'on appelle le parcours résidentiel.
Oui. Absolument. Ce qu'on peut aussi noter sur la partie sur l'agglomération rémoise, c'est que Reims, en fait, a, notamment en termes de coûts, a eu une évolution, on va dire, de plus 10% sur donc la ville, intramuros, alors que sur les villes limitrophes, on a observé un fait d'augmentation qui était deux fois supérieur. Donc on est plus 20%. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, ça renforce encore plus la tension, parce que l'attractivité de Reims reste effectivement, leader, en tout cas la plus importante. Mais pour le coup, l'offre étant plus attractive sur Reims, les gens veulent effectivement se concentrer sur Reims, mais la périphérie, en fait, fait apparaître des augmentations tarifaires qui sont un peu, parfois, décourageantes. Donc ça crée deux niveaux en fait, de tarification, mais ça renforce surtout la tension sur Reims.
Merci beaucoup, Thomas. Vous allez rester avec nous, puisque des données précises, on y reviendra bien évidemment tout au long de l'émission. Et on va justement recevoir des experts. On va recevoir trois experts sur le plateau. On va accueillir tout à l'heure Jean-Charles Huberti, qui est responsable du service transaction des clés de l'immobilier. Alors là, celui qui a fait le marketing de l'agence, c'est extraordinaire, les clés de l'immobilier, je trouve ça génial comme nom. On a aussi un monsieur engagé sur le plan syndical et qui est aussi le régional de notre étape, c'est Vincent Poitvin, qui est trésorier de la région FNIM Grand Est et gérant de Vitry Immo. Alors je dis on dit Vitry. Vous voyez ce que j'ai un W. Ça s'écrit avec un W. Vitry Immo, donc Vincent Poitvin qu'on va recevoir tout à l'heure. Mais également, une toute jeune et dynamique agent immobilier. On est ravis de l'accueillir sur le plateau. C'est Emma Bugval qui est responsable d'agence Nesten Immobilier à Reims. Place au débat avec nos experts. C'est dans un instant.
Bien ici, bien chez vous, le grand débat.
On est bien ici, bien chez vous, et on est surtout à Reims, les amis. Il faut venir ici, dans cette bonne vieille ville de Reims. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a quand même quelques grandes maisons de champagne. On est d'ailleurs ici dans un lieu magique, puisqu'on est dans la maison Moum. Voilà, c'est très très bon. Et on aime beaucoup. Alors, bien sûr, il faut le boire avec beaucoup de modération, mais on ne peut pas arriver à Reims et ne pas boire du champagne. C'est pas possible, hein. Ça serait presque une faute de goût. Nos experts sont avec nous sur le plateau. Bonjour Jean-Charles Huberti.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci.
Voilà, heureux d'être ici ?
Très heureux.
Bon, ben ça se voit tout de suite.
Oui, c'est important.
Voilà, c'est important. Voilà, responsable du service transaction, les clés de l'immobilier. Bonjour Vincent Poitvin.
Bonjour à tous.
Voilà. On se retrouve, Vincent, trésorier de la région Effenheim Grand Est et gérant de Vitrimo. Merci d'être avec nous.
C'est ça.
Parce que vous avez l'avantage d'être à la fois dans la région, mais aussi au conseil d'administration nationale et avec le président Loïc Quentin, à défendre la profession. Merci d'être avec nous. Emma Bucbal, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien, et vous?
Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Voilà.
Bah, c'est partagé.
Vous irradiez littéralement. Responsable d'agence et Nesten Immobilier.
Tout à fait.
Et on va faire un clin d'œil d'ailleurs à notre présidente préférée, c'est Delphine Rouxel, présidente de Nesten Immobilier. Vous êtes tous des professionnels de l'immobilier, pour certains de longue date. Justement, je vais vous demander à chacun un petit exercice, c'est de nous présenter ce que vous faites dans votre agence, un peu votre métier, mais également d'avoir un peu comme les experts, des experts que vous êtes, vous allez me donner un peu, si vous voulez bien, les tendances, un peu comment vous voyez votre marché, chacun différemment peut-être. Et je vous propose, honneur aux dames, qu'on commence par vous, Emma. Présentez-nous un peu votre activité, ce que vous faites avec Nesten Immobilier, et également votre avis sur ce qui a été dit sur la tendance du marché Reims que vous connaissez particulièrement bien.
Tout à fait. Alors nous, on représente l'agence Nesten Reims Avenue de Laon. Il faut tout simplement savoir que nous, on fait de la transaction, de la location, de la gestion locative, du viager, etc. On est polyvalent dans notre métier avec le plus grand des plaisirs et toujours en étant solaire, bien évidemment, c'est ce qui nous représente. Il faut savoir que nous, on a commencé notre activité en 2024 quand on a repris l'agence. On nous avait promis un contexte un petit peu compliqué et pour autant, on a eu une dynamique complètement différente. On s'est retrouvés avec une belle année 2024. Une année 2025 tout aussi belle avec des acquéreurs et des vendeurs plutôt ouverts d'esprit. Alors peut-être la jeunesse de notre métier, mais en tout cas, nous étions relativement heureux. Et puis bah là, cette année est tout aussi belle et on en est très contents.
Démarrer en 2024.
Oui, tout à fait.
Alors, au pire moment où on pouvait démarrer, en fait.
On dit toujours que c'est quand la bourse est basse qu'on doit investir. Voilà. Bah, c'est ce qu'on a fait.
Ouais. Et je connaissais d'ailleurs un grand patron de l'immobilier, aujourd'hui disparu, à qui on va rendre hommage, qui s'appelle Laurent Vimon, président de Century 21, qui disait que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont mis un maillot de bain. Voilà. Donc, je trouve remarquable. Vous savez pourquoi je trouve remarquable que vous soyez créé dans une circonstance de crise? Ça veut dire que votre activité professionnelle, elle est contracyclique, autrement dit. Comme vous êtes bon dans votre domaine, vous êtes de très bons professionnels, même quand le marché était bas, vous avez performé. Et en fait, on reconnaît la qualité des professionnels dans des cycles de marché sur lesquels on n'est pas forcément naturellement porté. Vous voyez ce que je veux dire? Porté par un mouvement d'acquisition. Parfois, on a connu avec Vincent dans le métier, on a quelques années derrière nous, où quand ça allait bien dans l'immobilier, il y a des agences, il faut le dire, fleurissaient un peu partout. Voilà. Et les vrais professionnels, quand vous faites la courbe des agences qui sont toujours là, sur les 10 ou 15 dernières années, on se rend compte que ce sont les mêmes, et en particulier les professionnels. Donc je suis ravi que vous ayez performé, et donc ça démontre également votre professionnalisme. Comment vous qualifiez votre marché aujourd'hui, à Reims?
Aujourd'hui, on retrouve un marché qui s'apparente à être de plus en plus dynamique. Forcément, les taux, ils vont venir, mine de rien, soit favoriser, soit un petit peu réduire tout de même. En plus, en étant ancienne banquière, je pense que je parle en connaissance de cause pour le coup. Mais mine de rien, aujourd'hui, on a des acquéreurs et des vendeurs qui reprennent confiance dans le marché, qui sont tout à fait ouverts au conseil des agents immobiliers, tout simplement pour commercialiser le bien ou tout simplement aller au bout de leur projet. C'est un beau marché qui s'ouvre à nous, qui est là, qui est dynamique. Maintenant, il faut savoir être présent, être dans le relationnel et c'est ce qu'on fait de mieux.
C'est très clair. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a aucune poignée, aucune application digitale qui remplacera la poignée de main, vous êtes d'accord, hein?
Ah ben ça, c'est clair.
Voilà. Là, c'est, en tout cas, je suis ravi. Vincent, rebonjour. Vincent, bonjour. Alors, activité incroyable, parce que je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes au conseil d'administration à Paris avec la FNAIM, vous êtes sur les opérations et vous faites tourner également la boutique. Parlez-nous à la fois de l'engagement que vous avez fait, parce que je trouve qu'on va vous rendre aussi hommage avec l'engagement syndical, parce que je rappelle que vous le faites de manière très engagée au sein de la FNAIM au niveau national, mais également patron de votre agence immobilière. Parlez-nous de votre marché.
Oui, alors donc moi, au niveau de ma structure, je me suis installé dans une période difficile, un peu comme Emma, je me suis installé en 2008. Donc c'était une période, comme beaucoup le savent, très difficile, et donc heureux d'être toujours présent. Donc moi, je suis installé à Vitry-les-Reims, hein, c'est un petit bourg à 5 km de Reims, hein, au milieu pluriurbain. Et je fais de la location, gestion, transaction. Je ne fais pas de copropriété. Effectivement, l'engagement syndical, dès que je me suis installé, je suis rentré à l'FNAIM. J'ai démarré au niveau de la Chambre en tant que trésorier, hein, et je suis passé président de région, et aujourd'hui, sous l'impulsion de Loïc Quentin, qui est le président actuel, il m'a demandé de le suivre au niveau du syndicat national, donc à la fédération.
Donc vous êtes donc maintenant
trésorier national.
Alors justement, Vincent, le marché, avec dans le bourg dans lequel vous êtes, à Vitry-les-Reims, si je vous demandais la même analyse, à l'instar de ce que j'ai demandé à Emma, vous le voyez comment, votre marché, en termes de vitalité?
Alors, à l'extérieur de Reims, on a eu une période vraiment difficile en 2023. 2024, ça commençait à repartir un petit peu. Et là, 2025, c'est une année raisonnable. Ce n'est pas encore l'euphorie, bien sûr, mais c'est une année raisonnable. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on revoit quand même beaucoup de personnes qui avaient abandonné leur projet, qui reviennent un petit peu nous voir et qui se disent là, c'est peut-être le moment de...
Vous les voyez revenir, les porteurs de projets?
Oui.
On le voit,
on le voit de
plus en plus. Oui. Ah, il y a aussi un phénomène, je vous interrogerai là-dessus aussi pour avoir votre avis, c'est que ceux qui étaient sur le marché locatif, qui ne trouvent pas de location justement, eh bien finalement, ça a accéléré leur envie d'acheter. Et on a vu qu'effectivement, il y a pas mal d'offres, notamment, il y a certains promoteurs qui disent, voilà, pour le prix d'un loyer, acheter l'une, par exemple, ce genre de choses, qui visent également à resolvabiliser les primo-accédants. Merci pour ces précisions. Jean-Charles Huberti, avec les clés de l'immobilier, vous partagez le même constat de vos collègues. Comment, pour vous, vous l'avez vu cette année?
Cette année, ça s'est plutôt bien passé. On a aussi reconnu une évolution dans le bon sens. C'est vrai que l'année dernière, ça s'est plutôt stabilisé. Maintenant, comme vous l'avez présenté sur votre vidéo, on a l'avantage d'être dans une ville plutôt dynamique, où il y a un entrain important au niveau de l'investissement locatif, même si ça reste quelque chose de compliqué. On a un beau parc immobilier, on a une belle ville qui bouge. Et de ce côté-là, les indices sont plutôt favorables, en tout cas sur 2025 et logiquement sur 2026.
Si on prend 2024 comme année de référence, ou l'année 2023 qui a été quand même très compliquée, est-ce que vous avez constaté le rebond du marché, comme certaines régions, ou est-ce que vous dites, comme on n'est pas très loin de Paris, qu'on est sur un territoire, c'est vrai, attractif, qui a une démographie positive, je le répète encore, ce n'est pas le cas de toutes les régions, malheureusement, vous l'avez vu, la différence, vous la percevez sur vos résultats, dans vos activités?
Et au-delà de ça, sur le comportement des acquéreurs qui se positionnent un peu plus facilement, qui tiennent un peu plus la route, et également de nos vendeurs qui nous écoutent un peu plus sur les estimations. Aujourd'hui, faire appel à un agent immobilier, c'est primordial, puisque si on n'est pas au bon prix, on ne vend pas.
Plus que jamais en ce moment. Plus que jamais en ce moment. Alors, je vais être un peu provocateur. Est-ce que ça veut dire que les périodes qu'on a connues par la fois, qui étaient un peu spéculatives ou ça partait, on va dire facilement, est-ce que la correction naturelle du marché a fait revenir les acquéreurs comme les vendeurs à plus de raisons, entre guillemets?
Fait revenir, mais ça met du temps.
Oui, ça a mis du temps.
Ça a énormément de temps. Ouais. On a tous des clients qui nous parlent de leurs voisins, qui ont connu des choses importantes.
On a toujours un voisin qui a acheté à un prix incroyable en disant, voilà, je ne comprends pas.
On les voit encore.
Voilà. Ou celui qui pense que son appartement est la 8e merveille du monde et qui ne comprend pas qu'il faut ajuster le prix. Parce que le problème, c'est le rapport entre le prix et la demande qu'il faut ajuster. Vous sentez que, que les ajustements, les vendeurs commencent à être ouverts à ça?
C'est ça, ça redevient plus concret, plus favorable aux enveloppes.
Est-ce que ça veut dire, même question d'ailleurs à vous trois, que là où vous avez fait des expertises où les gens n'étaient pas chauds du tout parce que vous aviez donné un avis de valeur qui n'était pas celui qu'espérait le vendeur, est-ce qu'ils vont appeler par exemple pour vous dire finalement vous avez raison, revenez me voir, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse?
Ça arrive souvent parce que au-delà de ça, on préfère ne pas prendre un bien qui n'est pas au bon prix. Parce qu'on sait qu'en ce moment ça ne fonctionne pas, et effectivement en règle générale, alors nous on relance parce qu'ils n'osent pas nous rappeler non plus pour nous dire qu'on avait raison,
mais
à la fois oui, on fait notre travail correctement et derrière on les aide.
Quand c'est pas au prix, ça part pas. D'accord. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'un pigeon se lève le matin et qu'il achète à un prix et qui du coup défie tous les pronostics, mais ça c'est quand même assez rare. Vous partagez le même constat, Vincent Poilevin?
Oui, et puis ce qui est assez difficile à entendre, c'est qu'on fait des estimations, finalement le vendeur se débrouille lui-même et quand on rediscute avec lui, finalement il a vendu à l'estimation qu'on avait faite.
Ben oui.
Donc
bon, c'est parfois frustrant. Hein.
C'est effectivement frustrant.
Emma, vous les voyez revenir parfois quand vous avez fait un avis de valeur en disant, écoutez, votre appartement, votre maison, elle vaut tant. Et en fait, le gars, il dit non, mais vous rigolez ou quoi? Je l'ai acheté, machin et tout, je perds la plus-value, machin. Et puis, c'est pas vendu. Et puis, finalement, il vous rappelle, bon, peut-être que vous devriez revenir, vous avez peut-être raison, des choses comme ça. Ça arrive?
Bien sûr. C'est là tout notre rôle, en fin de compte, d'accompagnement. Apporter une forme de maturation au projet qui n'est pas forcément dans l'immédiat au moment de la remise d'un avis de valeur. C'est là où on va avoir un petit peu de pédagogie, d'expliquer que malheureusement, des fois, oui, il y a une différence entre ce qu'on veut et de ce que vaut réellement notre bien. Mais c'est là où il y a tout le charme aussi de notre métier. Ça serait trop facile de pouvoir tout de suite trinquer au premier coup, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est très clair.
C'est un peu du challenge, quoi.
Ouais, c'est très clair. Thomas, on voit bien, ça confirme exactement vos données. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a connu cette tension 2023-2024. On voit bien que le plateau a commencé à se stabiliser en 2025. Hein. Quand on voit vos chiffres, c'est éloquent. Et on retrouve un équilibre qu'on n'avait pas connu depuis 2019, quasiment.
C'est exactement ouais. Ça, en fait. On a ce rebond en fait, de la demande qui est accompagné par une augmentation toujours de l'offre et qui en fait, a permis en fait, un rééquilibrage, je dirais, sain de l'offre et la demande oui. Qui n'était pas arrivée depuis très très longtemps.
Oui, c'est ce que vous disiez d'ailleurs Jean-Charles, très justement, effectivement, cet équilibrage qui amène finalement les porteurs de projets à plus de raisons. On voit que les données que vous avez, Thomas, montrent un rebond très significatif de la demande en 2025. J'aimerais vous demander à chacun, dans votre analyse, selon la classe d'actifs, je pense que vous faites que du résidentiel, quasiment. Que du logement, vous ne faites que du logement, vous ne faites pas de bureau, commerce ou autre. Sur le résidentiel, on va commencer par vous, Vincent. On voit bien qu'avec les données, en plus, vous avez la particularité d'avoir un territoire, il faut le dire, qui est attractif, vous êtes d'accord là-dessus?
Absolument.
On a beaucoup de Parisiens qui investissent sur cette région, on est à une encablure de Paris, donc on a tous les avantages finalement de la ville, de la très grande ville, la grande métropole. Sans les galères finalement, parce que c'est une ville à la campagne. On est très rapidement dans un cadre de vie, on le voit de plus en plus. Quand on voit ces données, est-ce que vous vous dites que ce marché-là, avec 2026 qui se pointe à l'horizon, des élections, il y en a deux qui sont majeures pour le pays, la carte électorale sera plus la même en mai 2026 puisque il y a les élections municipales, et en mai 2027, il y a l'élection présidentielle. Comment vous voyez cette analyse sur votre territoire à lui, par rapport à ce que vous faites, mais également quand on le compare avec la dynamique de grandes métropoles comme Paris, par exemple, Lyon, Nantes ou Rennes?
C'est vrai que Reims, on a quand même la chance d'être à 45 minutes en TGV de Paris, hein, donc c'est accessible très très facilement. Et au moment de l'arrivée du TGV, ce que l'on voyait, c'est que beaucoup de Rémois profitaient d'aller travailler sur Paris. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un petit peu l'effet inverse, c'est que des Parisiens continuent à travailler sur Paris, mais viennent sur Reims habiter. Donc il y a un effet inverse, je trouve, par rapport à l'arrivée vraiment du TGV il y a 10 ans maintenant. Et l'attractivité de la ville fait qu'on s'y sent bien, le marché est dynamique et les prix sont abordables.
Hein. On est à une heure de Paris, quoi, à peu près.
Oui, je vous dis, en TGV, on est à 45 minutes. En voiture, on est à 1h, 1h10.
Une heure et demie. Ouais. Et on est sur des prix, mais sans commune mesure.
Ah bah...
Sur des cœur de ville, enfin, c'est hyper agréable. Mm-hmm. Hyper agréable. D'ailleurs, on y pense avec... moi aussi j'y pense, parce que je me dis que c'est vraiment hyper agréable, parce qu'en
fait, les cartes.
Vous avez tous les avantages de la grande ville, sans les inconvénients. Emma, on est très rapidement ici à la campagne, il y a plein d'activités, et si on veut aller faire un super théâtre ou un super resto, on peut même carrément faire un aller-retour avec le TGV et aller à Paris. Quoi.
Absolument.
Comme on prend le tramway ou le RER, vous savez, il y a des trajets de RER sur l'Île-de-France, c'est des fois une heure et quart, c'est la distance qu'on mettrait en TGV pour faire Gare de l'Est, Reims. Hein.
Alors nous, il faut savoir qu'on a une ville qui est relativement attractive, que ce soit en termes de commerce, de commodité, absolument tout. En effet, on a 45 minutes de Paris. Donc ça crée un lien avec nos amis parisiens qui viennent fortement s'implanter chez nous. Mais c'est avec le plus grand plaisir qu'on les accueille.
D'accord. Vous êtes rémoise, hein. Rémoise. Hein.
Je suis bourguignonne de base. Je fais quelques infidélités à la région, mais mon cœur est rémois. C'est le plus important.
Ouais. Ça va faire plaisir à Didier, ça.
Ah, voilà. Mais c'est un Rémois pure souche.
Voilà, Didier, c'est Monsieur Bulval. Voilà.
Exactement.
On lui fait un petit clin d'œil. On avait dit qu'on le ferait.
On le fait.
On avait dit qu'on le ferait. Jean-Charles Huberti, est-ce que les projets, visites, mandats, vraiment sont revenus, on va dire, dans une dynamique d'activité économique comme on l'a connue? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur une dynamique que vous confirmez et qu'a priori, aux estimations, alors bien malin celui qui ferait de la prophétie sur 2026, mais ça semble quand même se confirmer?
Ça se confirme par différents facteurs. On le voit, on fait davantage d'estimations. Davantage d'estimations se confirme en projets réels plus rapidement. Donc mathématiquement, on va rentrer plus de mandats et forcément l'activité va en découler. Donc,
Si je vous demandais, par exemple, en estimation, justement, sur l'estimation en augmentation, c'est quoi? Plus 10%, plus 20%, c'est significatif? Vous diriez quoi?
Par mois, sincèrement, je pense qu'il y a une augmentation de 10% d'estimation.
Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Oui, ça, c'est très, très... Vous partagez la même...
8-10%, c'est ça.
Emma aussi, également?
Plus ou moins, en effet.
Oui, ça reste quand même une vraie dynamique. J'aimerais qu'on parle d'un sujet important, Thomas. C'est, on est d'accord, les taux d'intérêt restent, on est d'accord, un élément déterminant.
Oui.
Il y a une corrélation structurelle directe entre la baisse des taux ou le plateau des taux et la reprise du marché. Vous confirmez ?
Ah, je vous confirme, et je pense que nos experts pourront le confirmer encore plus que moi. Il y a effectivement des facteurs qui incombent en fait à l'acte en fait, ou la capacité d'un recherchant à pouvoir se projeter dans son futur logement, notamment dans la transaction. Les taux sont un des critères fondamentaux en fait. Et puis vous avez derrière d'autres facteurs. Peut-être on en parlera tout à l'heure sur tout ce qui est facteur DPE, etc. Oui.
On l'a vu d'ailleurs sur la crise de l'immobilier, hein, Vincent, vous vous rappelez. On a pris en deux mois, on a pris une augmentation de 350 points de base. Mm-hmm. En plus, on a une ancienne banquière avec nous qui peut nous confirmer. C'est-à-dire que grosso modo, on est passé de 1% à 4%.
C'est ça.
Le marché, en trois mois, il s'est arrêté. Mm. Tous les porteurs de projets ont abandonné. Et il y a eu un autre corollaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la même période sur des opérations, parce que moi j'ai la chance aussi de faire aussi des opérations, il n'y a plus de banque qui prêtait. C'est-à-dire que non seulement on avait les taux à 4, mais même quand on voulait emprunter à 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, les banques avaient fermé les robinets. C'est absolument phénoménal. Quand c'est arrivé, comment vous avez réagi, chacun, dans votre... Parce que c'est du jour au lendemain que c'est arrivé. Vous passiez d'un train où ça fonctionnait avec des renégociations. Alors c'est vrai, je pense qu'on ne reconnaîtra pas, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on ne va pas reconnaître des périodes à 0,90 ou à 1% sur 20 ans. Ben c'est, à mon avis, ça devenait délirant. La normalité, finalement, ce qui était anormal, c'est les taux bas qu'on avait connus, puisque moi, j'ai l'âge d'avoir connu des taux à 16%, hein, quand même. Bon, on avait 10% d'inflation, hein, donc ce n'est pas exactement le même métier, mais là, on revient à des choses beaucoup plus raisonnables. J'aimerais avoir votre avis, justement. Est-ce que vous avez connu cette période où on brutalement, du jour au lendemain, eh ben, là où vous avez des dossiers sur lesquels ça passait en taux d'intérêt avec les banquiers ou un courtier avec qui vous bossez à 1,2 ou 1,3 ou 1,5, même à 2, ou du jour au lendemain, ça a doublé. Emma ?
Bah pour le coup, nous, quand on est arrivé, les taux étaient déjà assez hauts.
Ils étaient à combien quand vous êtes arrivé ?
Quand on est arrivé, on était déjà... On passait quand même la barre des 3.
Ah oui, quand même.
Et en fait,
oui.
C'était dans l'inconscient collectif où c'était inacceptable d'aller sur ce type de taux-là, alors qu'en réalité, c'est la norme.
C'est la norme.
C'est la norme, sauf que quand on passe à des taux qui étaient, quand on octroyait des prêts qui étaient à du 0,95, même du 1,10 pour les plus malchanceux, forcément, ça rebat les cartes. Et c'est là, en fin de compte, on va avoir un pouvoir de conseil qui va être énorme pour la suite à donner, puisqu'on va faire comprendre bah, que ça, bien malheureusement, ça reste la normalité. Mais on va tout faire pour que des dossiers passent. Des fois, ça va passer par des règles comme bah, augmenter l'apport, peut-être avoir des échéances un petit peu plus lourdes.
Mais sur certains dossiers, ça les a carrément désolvabilisés.
Tout à fait.
Donc là, vous pouviez acheter, ils ne pouvaient plus acheter. Ils ont arrêté le projet.
Ça rebattait complètement les cartes.
Ah oui,
on tournait vers peut-être d'autres projets qui se tournaient au départ sur du centre, bah, on allait peut-être un petit peu plus sur de la périphérie. Et on trouvait, ce n'était pas un problème, mais il fallait faire accepter l'idée. Et c'était peut-être là toute la difficulté.
Et c'est les fameux ajustements. Vincent, vous partagez le même point de vue ?
Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, au niveau de la FNIM, et tu le sais bien, ce que on se bat, c'est sur la portabilité des prêts. C'est-à-dire que si vous avez eu la chance...
Est-ce qu'on peut expliquer aux Français qui nous écoutent ce que c'est que la portabilité des prêts ?
Si on a eu la chance d'avoir un prêt à 1% ou 1,2% et qu'on veut changer de
bien... Un exemple, j'ai emprunté 400 000 euros. j'ai réussi à avoir un taux à 1,2%.
Voilà.
L'idée, c'est quoi?
Je dois déménager, je dois acheter
voilà.
un nouveau bien.
Je vais garder 10 ans, parce qu'en moyenne, je crois qu'on vend à peu près, vous me dites, tous les 7 à 10 ans, en moyenne. J'ai vendu au bout de 10 ans, mm-hmm. j'ai eu un super taux. L'idée, c'est quoi? C'est je garde le même taux?
Je garde le même taux pour un nouvel achat.
Avec le même droit de tirage,
oui.
ou je renégocie un autre prêt?
Ah bah, il peut y avoir un prêt additionnel de toute façon.
D'accord. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai 400 000 euros d'emprunt, que j'ai emprunté à 1%, il me reste, par exemple, chez moi, 200 000 euros à amortir.
C'est ça.
L'idée, c'est que je continue à bénéficier des mêmes conditions pour 200 000 euros.
Oui.
Éventuellement, je rajoute au pot. Et éventuellement, peut-être que je peux préserver. Est-ce que je préserve le même taux dans votre idée, dans l'idée politique que vous poussez?
Bah, dans le taux, dans le prêt de base, oui, on garde le même taux.
Ça serait génial. Vous vous rendez compte?
Ça, et même éventuellement la transférabilité si on n'a pas besoin de réinvestir.
Objectivement, ça m'intéresse. Si vous permettez, on ferait une petite dégression. Ça veut dire, les banques ne laisseront jamais passer ça. Est-ce que ça vous paraît politiquement acceptable?
Si on leur fait accepter le fait que derrière, ils gardent leurs clients et ils font peut-être un prêt complémentaire.
En fait, s'ils veulent conquérir des clients, leur vendre notre produit, c'est effectivement génial. Vous connaissiez la transférabilité et la portabilité, Emma?
Alors, oui, on connaît maintenant.
Et ça s'est déjà fait.
Dans les faits, c'est peu accepté.
Peut accepter par les banques.
C'est compliqué. En effet, c'est quelque chose qui peut se faire maintenant dans la réalité des faits. Quand les vannes sont fermées, c'est fermé.
Parce que pour le business, ça serait génial. Enfin, pour l'immobilier, ça serait formidable.
Ça serait magnifique.
Formidable. Non, mais c'est vrai.
Mais surtout que les 10 premières années, elles ont déjà escompté. Elles ne perdent rien, les banques. Oui.
Bon, Jean-Charles, je suis sûr que vous êtes d'accord.
Complètement.
Ouais, parce que l'idée de la portabilité, bon, moi je suis assez dubitatif, mais effectivement, c'est une idée intelligente. Parce que c'est vrai que si on arrivait avec la masse des personnes qui ont aujourd'hui en cours d'emprunt, avec des taux incroyables, des taux de 0,80, 1,2, ou moi, quand j'ai emprunté pour ma maison, j'ai renégocié 3 fois le taux. J'ai économisé, sur la durée de mon emprunt, c'est une durée de 21 ans, j'ai économisé quasiment 85 000 euros. C'est plus que significatif. Ça peut être une chambre de plus, c'est du mètre carré supplémentaire. Enfin, voilà. Il y a un vrai sujet. Le côté sensible des taux. On avait dit qu'on a une relation directe structurelle, c'est vraiment un effet ciseau. Quand les taux augmentent, effectivement, le marché baisse. Donc les taux redonnent du pouvoir d'achat. J'aimerais vous poser une question complémentaire. Est-ce qu'il faut nécessairement, quand on achète sa résidence principale, Jean-Charles, forcément faire une plus-value? C'est quoi l'idée quand on achète sa résidence principale? C'est finalement, au lieu de payer un loyer à fonds perdu, d'épargner. Et c'est pas l'idée de la plus-value qu'on a, mais c'est qu'on retrouve finalement sa mise au bout d'un certain nombre d'années d'amortissement, parce qu'il y a cette idée qui a été portée à cause des taux bas, sur lesquels on faisait finalement des opérations à effet de levier. Mais la résidence principale, c'est avant tout le lieu de la sécurité.
C'est ça restera toujours un placement sûr. Ça évite effectivement que ça aille dans un fonds perdu. L'investissement du départ, on s'y retrouve forcément à la fin. Ça permet aussi de faire un achat levier pour acheter plus grand par la suite. Et puis, c'est le rêve de tout Français, vous le disiez tout à l'heure. On vend quelque chose de beau, un très beau projet, un projet de vie. Et tout le monde, je pense, le rêve du Français, c'est
d'acheter. Est-ce que les gens, ils vous disent, quand on achète, par exemple, comme ça, on aura un bien à donner à la retraite, ou si jamais, par exemple, quand on voit, par exemple, que les retraites fondent comme neige au soleil, on se dit, le fait d'acheter sa résidence principale, ça nous permettra de la revendre et peut-être de ne pas dépendre, etc., etc. Est-ce que les Français ont ce réflexe? Ou est-ce que c'est plutôt réservé à une catégorie de population qui a un certain âge et qui se pose ce genre de questions? Mais les jeunes accédant à la propriété, quand ils achètent chez vous, est-ce qu'ils pensent à ça dans l'avenir?
Les plus jeunes, un peu moins.
Le côté sécurité, en fait, voilà.
Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le projet, de capitaliser de l'argent et de passer à des projets supérieurs par la suite et d'éviter, encore une fois, de mettre dans quelque chose qu'on ne reverra pas.
C'est clair.
Mais, cette réflexion-là, c'était plus...
Oui, alors c'est intéressant parce que...
chose que l'on voit, c'est qu'on a des jeunes propriétaires qui sont pas propriétaires, qui sont locataires et qui se mettent dans l'investissement locatif. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils préfèrent acheter, mettre en location, ils restent, eux, locataires de leurs biens. Et puis...
Je le vois de plus en plus. Est-ce que vous partagez? Oui, de plus en plus. Sur des générations jeunes.
Jeunes,
beaucoup plus jeunes. Mm-hmm. Emma, partagez. Il y a des gens qui préfèrent louer leur appart et leur capacité d'emprunt de faire des investissements locatifs.
Oui, en fait, il y a l'idée d'aller se constituer un patrimoine sur le long terme. de sécuriser et de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ça passe par de l'investissement locatif assez facilement et de plus en plus tôt, sachant que, je vais parler forcément pour Reims, hein, c'est la ville aujourd'hui qu'on représente. Reims, c'est une ville dynamique, c'est une ville où le flux locatif est extrêmement tendu. On aurait tort de ne pas investir, notamment sur certaines zones comme Clermarais, le Mont d'Arène ou autres, qui ne font que grossir et d'être de plus en plus attractives, notamment avec des arrivées comme Neoma.
Oui, c'est des bons plans, ça.
Ah bah, c'est le super bon plan. Il faut investir, en fin de compte, à Reims. Sur des surfaces T1, T2, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus.
C'est quoi, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés en moyenne ?
On vise, en fin de compte, pour pouvoir mettre un étudiant, même s'il y reste que quelques années, c'est vraiment des investissements rassurants, périns, mine de rien. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on retrouve comme terme de profil à Nesten Reims.
On va donner des chiffres. Quel taux de rentabilité on peut espérer sur un investissement locatif dans l'ancien ?
Aujourd'hui, on peut facilement tourner, aller à du 6, 5, du 7.
En brut. Brut.
On arrive à en trouver des comme ça.
D'accord. Si, oui, c'est pas mal. Oui. C'est énorme.
Il y en a, comme si dans tout un marché, brut, il y a du haut, du bas, mais on peut.
Ça fait, alors on va dire, allez, on enlève 40%, ça donne une rentabilité nette de quasiment 3,5%. Ah oui, c'est pas mal. On trouve encore.
Ah oui.
Vincent, on trouve encore des taux de rentabilité
Oui, des petits logements. En fait, aujourd'hui, bon, on en parlera sans doute après avec les DPE, mais les logements qui sont DPE énergétiquement faibles, on arrive à discuter les prix, à faire éventuellement des travaux nécessaires et puis à les remettre sur le marché. Un loyer intéressant.
Ok, 6 à 7% de rentabilité, c'est absorbable, Jean-Charles ?
Ça se pratique, ouais, on le voit dans les calculs que l'on fait, et 5% même net sur quelques logements.
Ah oui, oui. Donc ça reste hyper, hyper attractif. Est-ce que, justement, j'en profite, il y a des investisseurs qui viennent vous voir pour investir dans l'immobilier, est-ce qu'il y a toujours le même engouement des investisseurs à placer leur argent, malgré la charge fiscale ? Et le fait qu'aujourd'hui, ils deviennent quelque part la variable d'ajustement des budgets de l'État ?
On a toujours connu de l'investissement. Nous, on a l'avantage au pied de l'immobilier d'avoir un service aussi locatif, en plus du syndic de copropriété et de la transaction, où justement, on échange beaucoup et on nous envoie aussi des bailleurs qui recherchent d'autres investissements, puisque ça se passe bien, ça se paye et donc du coup, ils veulent refaire d'autres projets.
Donc, on le voit, hein, Thomas,
ça y va toujours.
Avec ce que disent les experts, c'est que les tendances véritablement se confirment sur le lieu de l'intime, la sécurité pour la primo-accession, ça c'est clair, c'est très clair, et ça reste encore dans certains territoires, pas dans tous, des territoires extrêmement attractifs pour l'investissement immobilier.
Oui, effectivement, il y a une mécanique, il y a une dynamique qui existe, notamment, nous, ce qu'on observe, c'est plutôt, d'ailleurs, sur les primo-accédants, plutôt en périphérie, mais c'est sans doute parce que l'offre est peut-être plus importante aussi. Mais voilà, ça tient aussi peut-être un effet générationnel. On parlait effectivement
oui,
des jeunes qui souhaitent plutôt jouer sur l'investissement locatif. Donc, il y a cette idée aussi peut-être un peu de jeu, je ne sais pas, d'insouciance. Pour le coup, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais on voit bien que toutes les typologies en fait, d'acquéreurs, les primo comme les secondos coexistent.
On va parler maintenant, si vous voulez bien, du rapport locatif, hein, de la location, l'accès au marché locatif privé. Enfin, mais c'est une... Je regardais les nombres d'annonces sur Bien Ici, on regardait aussi sur d'autres portails, mais le nombre d'agences à la location a fondu comme neige au soleil. On est sur... J'ai pris les chiffres justement sur les 3-4 dernières années, c'est un truc de fou. On est sur des baisses de plus de 50%. Il n'y a plus d'offres à la location. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Je voudrais qu'on vous fasse réagir sur le marché locatif privé. Et j'aimerais également que vous me parliez du diagnostic de performance énergétique. Parce que là, on est entré, ça y est, hein, on est entré dans le dur, puisqu'on est dans le calendrier qui a été fixé par la loi Climat et Résilience en août 2021. Qui prévoit sur les 7 lettres énergétiques le retrait minimum à l'horizon 2030 de 3 lettres. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va dire qu'on sera A, B, C et D. Et D, ça deviendra finalement la variable la pire qu'on trouvera, qui sera encore facile. Seul problème, c'est qu'on a un tiers du parc locatif qui se situerait entre D, F et G. où là, on a un gros, gros souci. Alors, gros souci sur le marché du bâti. Moi, la question que je vous pose, c'est comment vous abordez la question cruciale du DPE ? Et vous avez tous lu les journaux en ce moment, hein, vous avez vu là, dans la presse, on parle de faux DPE, on parle de DPE de complaisance, on dit que les agents immobiliers s'arrangent avec les diagnostiqueurs pour faire passer une note, pour essayer de te faire transacter la vente, etc., et de la faire passer chez le notaire, etc. J'aimerais qu'on déconstruise sous les biens la mythologie. On va commencer avec vous, Jean-Charles. L'agent immobilier, c'est pas son but de minorer la valeur du DPE, vous êtes d'accord là-dessus ?
Aucun intérêt.
C'est se tirer une balle dans le pied.
Et puis, comme on dit, aucune transaction ne vaut notre réputation, donc on n'a pas d'intérêt de travailler dans ce sens.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord.
Et on a un rôle de conseil avant tout. Donc, le conseil est justement d'avoir tous les documents nécessaires pour déjà estimer au mieux. Et puis, par la suite, de vendre quelque chose de concret à notre acquéreur pour qu'il sache et qu'il achète en connaissance de cause. Pour que quand il nous recontacte dans quelques années, quand on va l'accompagner aussi sur son projet locatif, qu'on puisse être pro du début à la fin. Et donc,
alors, chez Les Clés, vous faites de l'administration de biens, vous faites de la gestion locative.
Tout à fait.
Est-ce que, objectivement, est-ce que vous avez vu, quand on a vu arriver l'interdiction des étiquettes F et G du retrait de la location, notamment, est-ce que vous avez vu vos mandats, parfois, certains propriétaires en disant ils vous retirent le mandat, parce que vous n'accepteriez plus, pour des raisons de responsabilité professionnelle, de mettre en location des étiquettes sur lesquelles les biens sont impropres ou considérés comme impropres à la location. C'est arrivé ou pas ?
C'est arrivé qu'on ait un flux supplémentaire de demandes d'estimation qui n'aurait pas eu lieu sans ça.
D'accord, ça vous l'avez constaté vous aussi.
Oui, on l'a constaté. Ouais.
Ouais. Comment vous réagissez par rapport au calendrier ? On est d'accord, Vincent, que personne ne conteste l'idée du calendrier et du fait qu'on doit tous aller vers une transition environnementale, etc. Il n'y a pas de débat. Seul problème, c'est que quand on voit les moyens qui sont mis en place et la durée très courte pour transformer le parc, moi, à l'époque, on avait fait pas mal de papiers là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, Vincent, on avait dit qu'il fallait 15 ou 20 ans pour transformer. Et là, on est parti sur une durée de 5 à 7 ans. Enfin, pour moi, c'est impossible à tenir, c'est mon avis. Mais vous en pensez quoi, justement ?
Aujourd'hui, c'est l'un des mots préférés des acquéreurs, c'est qu'ils veulent tous voir le DPE, alors qu'à l'époque, c'était même pas une question. Maintenant, on doit savoir lire un DPE, savoir l'expliquer, savoir comment expliquer les améliorations. C'est vrai que c'est un sujet de réflexion permanent chez tous les acquéreurs.
Alors justement, quand vous avez le DPE, vous, avec vos équipes, vous avez appris finalement quelque part un peu à entrer dans le vif du sujet, voire même parfois peut-être donner des conseils. Alors je ne dirais pas faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de manière structurante, mais peut-être de dire, bon, écoutez, là vous avez une note qui n'est pas terrible, mais par exemple en refaisant les planchers bas, les huisseries ou les combles, on peut améliorer d'une à deux lettres l'efficacité énergétique. Est-ce que vous arrivez à ça ?
Oui, on a la chance de pouvoir être accompagné par de véritables professionnels qui viennent nous voir en agence, qui nous forment, parce que ça évolue constamment, de pouvoir nous expliquer un petit peu comment rassurer nos potentiels vendeurs et acquéreurs, et justement de pouvoir derrière être le plus pro possible. Et c'est là encore une fois où j'insiste sur le fait que l'agent immobilier a encore une fois toute sa part dans toutes les transactions.
Depuis 2021, merci Jean-Charles, le DPE est devenu opposable. Donc, on a doté le DPE d'un pouvoir coercitif. Par exemple, un faux DPE peut entraîner la nullité de la vente. Je ne sais pas si vous savez, ça vous est déjà arrivé. Un DPE qui est faux peut entraîner le caractère caduque de la vente. Alors, ça arrive c'est déjà arrivé, hein, mais ça arrive de manière très, très marginale. Je vais justement poser à vous aussi la question. Emma, la question du DPE aujourd'hui, ça devient systématique ?
C'est primordial. C'est devenu un critère complètement décisionnaire aujourd'hui dans de l'acquisition, comme aujourd'hui dans du locatif, forcément, puisqu'il y a des règles et on doit les appliquer. Par contre, on doit avoir de la pédagogie, en fait. On est là, encore une fois, dans de l'accompagnement, d'expliquer que, oui, il va falloir peut-être des fois faire des travaux ou au contraire, prendre en compte que dans le cadre d'une acquisition, si on veut du confort, va falloir peut-être changer des huisseries, changer un mode de
chauffage. Est-ce que vous êtes amené, vous, en tant que transactionnaire avec vos équipes, d'apprendre à faire un peu d'AMO, entre guillemets, ou d'orienter vers des possibles travaux. Est-ce que ça est arrivé de convaincre des personnes d'acheter avec une lettre dégradée en leur disant, écoutez, vous inquiétez pas, si vous faites par exemple les juisseries, les planchers bas ou les combles, vous allez vraiment vous améliorer. Et d'ailleurs, je peux vous recommander quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on appelle un audit énergétique. Parce que le DPE donne la note et l'audit énergétique trace la voie et le projet. Ça arrive ?
Tout à fait. En fait, le but, c'est de faire un accompagnement de A à Z. Donc, on n'est pas là pour faire un peu vendeur de tapis. Chacun a ses connaissances et ses compétences qui s'arrêtent à son niveau. Donc, souvent, on conseille des artisans, on conseille des personnes qui peuvent effectuer des audits pour que, si demain, en tout cas, la transaction aboutisse, ce soit en connaissance de cause et en ayant mesuré des enveloppes, s'il y en a. Il ne faut pas avoir de mauvaises surprises, ça n'aurait aucun sens.
Est-ce que vous allez... si vous voulez me répondre, ceux qui le souhaitent, jusqu'à accompagner la phase travaux.
Ah oui.
Pour aider vos clients.
Ah oui, on a déjà.
Parce qu'ils se sentent rassurés si vous êtes là, etc.
Mais carrément, on l'a eu. Et puis ça fait partie aussi de notre métier, des fois, de passer pendant qu'il y a une phase de travaux. On a déjà eu à faire aussi des conseils sur de la couleur.
Ah ouais.
Mais j'ai envie de dire, c'est là aussi.
Ou de la déco, des choses comme
ça. Déco, c'est qu'on n'a peut-être pas des goûts si mauvais en déco. Donc c'est valorisant. Et puis ça montre qu'on nous fait confiance, même après le projet.
Ouais. Moi, je trouve ça génial parce que quand on vous donne, c'est l'achat d'une vie, une maison.
Ah bah carrément.
Et qu'on vous dise, est-ce que vous pouvez m'aider à... Normalement, vous pourriez vous dire, voilà, j'ai vendu, pas débrouillez-vous, mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais là, vous allez plus loin, parce que vous les accompagnez carrément, sans surcoût.
Oh non, c'est avec le plus grand des plaisirs.
Ah, c'est génial. C'est génial.
En tout cas, on est comme ça, donc bon.
Franchement, c'est jubilatoire d'entendre des agents immobiliers avec autant de passion. Bah, ça, voilà, c'est vraiment chouette. Vincent, même point de vue, le DPE aujourd'hui...
Oui, non, mais comme dit Emma, il faut accompagner, mais ouais. il faut pas se tromper. On est là pour donner du conseil, mais des bons conseils. Donc, il faut s'entourer aussi de professionnels qui savent et qui peuvent nous aider pour arriver à une transaction réussie et en satisfaction avec le client.
Alors,
sur Reims, ce que je voulais dire, au niveau des DPE, au niveau classification, on a 12% de logements qui sont en F et G.
Et 12%
et 23% en E. Donc on est à 35%, donc un peu plus d'un tiers.
Ça reste, ouais. Mais c'est incroyable. Toutes les grandes métropoles ont quasiment les mêmes chiffres. À quelques rares exceptions. Alors il y a quand même le pire, parce que le pire n'est jamais décevant. Alors le pire, c'est le Jura, l'Isère, parce qu'effectivement, les variations climatiques font qu'ils sont plus affectés par des dégradations de notes, etc. C'est là qu'on voit en fait que le DPE... où les travaux de rénovation ne sont pas les mêmes quand on est en Bourgogne, quand on est dans l'Isère, dans le Jura, ou dans le sud-est ou le sud-ouest de la France. Et c'est là qu'on voit, en fait, parfois la connerie de certains politiques qui imaginent de manière standardisée, vous voyez ce que je veux dire, Thomas, c'est des politiques qui, finalement, ne sont pas opérantes. Et c'est là qu'on voit que, vous connaissez votre territoire, si je vous dis, voilà, on va former un collectif pour réfléchir sur l'amélioration des notes énergétiques compte tenu de votre territoire, du climat, etc., il n'y a que vous qui êtes capable de répondre. Si je vous dis quel matériau, c'est la pierre de Paris, de la pierre de taille, de l'ardoise, du stuff, par exemple, ou ce type de fonctionnement, d'une ossature bois ou d'un béton armé, vous êtes capable de le dire. Ouais, est-ce que vous êtes capable également de repérer les pathologies bâtimentaires, des remontées capillaires, par exemple, des problèmes de moisissure et d'humidité? Parce qu'aujourd'hui, avec l'opposabilité du DPE, on parle du bien-être dans le logement. On n'en parlait pas avant. Moi, dans ma génération, Vincent, on ne parlait pas du bien-être, on parlait des actifs immobiliers. Aujourd'hui, on parle de bien vivre dans les malheurs. Justement, est-ce que, pour vous, en synthèse, le DPE ne vient pas, finalement, quelque part, rebattre les cartes dans la transaction et de donner, finalement, une autre façon de faire de la transaction tous les jours? Jean-Charles ?
Ça modifie un peu notre métier, notre manière de faire. Maintenant, on adapte notre discours et on traite de la même manière. Il faut aider les
acteurs. Vous aussi, vous accompagnez dans la phase travaux, en conseil?
Tout à fait. Bah après, on recommande des personnes en qui on a confiance.
Bien sûr.
Et justement, l'idée, ils sont ravis qu'on passe les voir pendant ou soit même après, de voir ce qu'ils ont fait, de nous le présenter.
Okay.
Ça fait partie du métier.
Ouais. C'est là que ça devient important d'avoir un agent immobilier qui a du poids. Quand j'ai acheté ma maison... Je suis tombé sur un agent immobilier qui m'a dit il faut faire 20 000 euros de travaux dans la maison. Au bout de 3 semaines, quand j'ai fait l'étude, il y avait 220 000 euros de travaux à faire. Donc l'agent immobilier m'a appelé pour me dire comment ça se passe. Je lui ai dit ça se passerait bien si vous changez de métier. Ou alors si tu retournais à l'école, par exemple. Parce que je peux vous dire que elle est salée, quand même, parce qu'on s'est rendu compte que l'infrastructure, etc. Alors, moi, je visualisais les travaux. Donc, je m'étais dit, 20 000 euros, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est pas possible. Parce que c'est ça le vrai sujet. C'est qu'on dit que l'agent immobilier, parfois, il baratine dans l'idée de faire la vente. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous disiez aux Français, nous, on aide les gens à se loger. Et c'est en faisant bien votre métier, comme vous l'avez dit Emma, Jean-Charles et Vincent, et Thomas le sait en termes de données, c'est ceux qui durent dans le métier. On peut le dire, ça.
Mmh. Ben, c'est pour ça qu'on doit se former aussi sur la pathologie des bâtiments, hein, pour pouvoir donner des éléments, des renseignements à nos clients qui sont fiables et sûrs.
Alors, je voudrais vous interroger sur une dernière partie avant de faire la conclusion, et j'étais ravi de partager ce moment avec vous. On en parle souvent d'ailleurs avec Thomas sur les données. On voit bien que le marché du neuf souffre et va souffrir durablement. Parce que pour faire pivoter le paquebot, il faut carrément changer de politique. Pour changer de politique, il va falloir retourner aux urnes. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Parce qu'on sait que nous n'avons plus rien à attendre de notre président de la République, parce qu'on voit bien que le marché du neuf, le logement et l'immobilier, c'est pas exactement sa tasse de thé. On peut le dire, on peut le dire comme ça. J'aimerais avoir votre avis sur justement la crise du neuf, parce que ici à Reims, j'ai vu, alors là, c'est carrément la cata, puisque le marché en autorisation d'urbanisme, construction et même sur la demande, alors là, c'est plus que la moitié qui s'est rétrécie, ce qui a engendré d'ailleurs beaucoup de restructurations d'entreprises régionales, malheureusement. Et pourtant, la demande est là. Un mot sur le logement neuf sur la région, Vincent Poitvin.
Déjà, il n'y a plus de...
Le foncier.
Foncier, on pourra encore un peu, mais le vrai souci, c'est la défiscalisation. Quoi.
Il n'y a plus d'aide à la pierre.
Il n'y a plus de loi de défiscalisation. Donc, les investisseurs, déjà, sur le neuf, ils sont totalement absents. C'est absolument sûr.
Donc, ça veut dire que, finalement, pour soutenir l'activité du neuf, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des aides à la pierre, des incitations fiscales.
Incitations fiscales.
Okay. Est-ce que le statut du bailleur privé, dont on connaît, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de remaniements en ce moment, statut du bailleur privé qui permet d'amortir, etc. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait qu'il verra le jour ou pas, sur le prochain projet de loi de finances?
Je crois que c'est mal parti, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Ou alors c'est carrément détricoté, quoi.
Ah bah, par rapport au projet initial, on en est loin.
C'est clair. D'ailleurs,
et c'était totalement utopique. De toute façon, compte tenu de la conjoncture actuelle, on ne pouvait pas espérer...
C'est très clair. Un mot, Emma, justement, sur le fait que le marché du neuf, qui affecte d'ailleurs aussi la transaction, on peut être très clair là-dessus, soit carrément presque à l'arrêt. Parce que le problème, c'est que quand c'est à l'arrêt dans le neuf, il n'y a pas assez de production, ça va vers l'ancien. Donc automatiquement, la pression de la demande fait augmenter les prix. Votre avis ?
Bah, c'est ça. En fin de compte, il y a un manque de dynamisme cuisant concernant le neuf. Donc forcément, on retourne vers l'ancien. Ça recrée... un élément assez en entonnoir. C'est compliqué. Maintenant, c'est un cycle. Forcément, il va se modifier à un moment donné. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je me dis qu'il y aura toujours, à un moment donné, une étincelle qui va venir et qui va rechanger le marché, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça, dans tous les cas.
C'est très clair.
Mais en effet, il est un petit peu à l'arrêt en ce moment.
C'est-à-dire ?
Bah là, en l'occurrence, il n'y a plus d'offres, ou alors à des prix complètement déconnants.
Inabordables.
Inabordables, et puis on n'a plus envie d'aller investir quand on sait que derrière, fiscalement, on ne s'y retrouve pas.
C'est clair. Avec aussi, parce que je regardais aussi les prix des taxes foncières, dis donc, c'est chaud, hein. Et ça va devenir... Vous savez que l'INSEE a classé maintenant l'accession à la propriété comme un produit de luxe ? Ouais. Et en 2018, on avait 16%... Vous savez, de charges contraintes, les amis. Ça veut dire que les charges contraintes, en fait, c'est le taux d'effort que vous faites pour payer votre loyer, par exemple. Hein. L'alimentaire passait en premier. Et bien là, en 2024, l'INSEE estime que le taux d'effort est passé de 18% à 26%. Devant l'alimentaire. Donc, je vais caricaturer, c'est manger ou payer son loyer, quoi. Mmh. Ah oui, on en est là. On en est vraiment là. Et heureusement, les amis, qu'il y a des agents immobiliers qui essayent de réguler le marché. Vincent le sait bien, parce que politiquement, vous êtes hyper engagé. Parce que les agents immobiliers, contrairement à ce qu'on imagine, régulent une partie du marché. Mmh. Parce que le problème, en fait, en réalité, bah, c'est les particuliers entre eux. Et du coup, on n'a pas de moyen de contrôle. Parce que vous avez tout, hein, les lois, les contraintes, etc. Par contre, les particuliers, pas de problème, hein, c'est open bar. Je continue à louer des passoires thermiques, hein, je voyais sourire, mais effectivement, je continue à louer des taudis. Et comme les gens ne peuvent pas se loger, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils ferment leur gueule et puis ils acceptent. Mmh. Non, mais il faut dire la vérité. Mmh. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Avant de nous quitter, je vous propose justement qu'on rêve un peu. Parce que j'ai une séquence qu'on aime bien. Et je pense qu'on va demander à notre amie Eva Bugwald de nous faire rêver. C'est justement la bonne affaire du moment.
Bien ici, bien chez vous. La bonne affaire du moment.
Où doit-on acheter en ce moment ? Voilà, les bons plans sur Reims. Donc ça, c'est une question que je vais poser à chacun d'entre vous, de me donner un bon plan. Et puis avec Emma, je vous propose qu'on rêve un peu. On va découvrir un bien d'exception. C'est la rubrique, c'est notre rubrique qu'on aime bien, qui s'appelle « Ça fait rêver ». Je suis sûr que vous avez quelque chose en tête. Hein.
Oui.
Ouais, vous avez quelque chose en tête. Mais tout d'abord, voilà, chacun des agents immobiliers. Je connais pas mal d'investisseurs qui sont prêts à acheter. Voilà, et aller chez les clés de l'immobilier.
Tout à fait.
Voilà. Mon cher Jean-Charles, est-ce qu'il y a un bon plan en ce moment ? Où est-ce qu'il faut aller ?
Il faut déjà venir nous voir. Ça bouge assez rapidement. Donc, on a des biens sur lesquels on sait que ça arrive prochainement, très bien placés en centre-ville avec des travaux sur un secteur primordial et premium. Et venez nous voir pour en savoir plus.
Voilà. On peut l'acheter pour occuper, mais aussi pour investir.
Tous les deux, tout à fait. Et défiscaliser avec des travaux.
Et alors, vous tapez les clés de l'immobilier sur Internet, vous tutoyez tout de suite et vous appelez Jean-Charles de ma part. Il vous recevra avec beaucoup de plaisir.
Grand plaisir.
Merci Jean-Charles. Les bons plans, Vincent. Alors, à Vitry-les-Reims, dans le coin, en périphérie.
C'est vrai que le cœur de le centre-ville de Reims est très important, mais l'extérieur est bien aussi. Venez à Vitry-les-Reims, vous êtes à 5 km de Reims.
Il y a des maisons magnifiques, un cadre de vie.
Absolument.
Et très abordable.
Un petit terrain, un beau petit terrain.
C'est ce qui okay. Alors justement, on a plein de messages. Un bon plan à Vitry-les-Reims, on peut appeler Vincent Poitvin. Voilà. Et on tape Vitry, Vitry-Imo, avec un W. Voilà, W-I-T-R-Y.
Vous risquez de tomber à Vitry-François, voilà, le marché n'est pas...
Voilà, mais on vous trouve également sur les... on vous trouve également sur Internet, Vincent Poitvin. De toute façon, les amis, si vous avez besoin d'infos, vous nous écrivez à la radio, vous voyez, sous le podcast, il y a l'adresse, vous nous écrivez et on vous répondra avec beaucoup de plaisir. Un bon plan avant de parler du bien d'exception. Emma, où est-ce qu'il faut aller ?
Bien évidemment, il faut aller chez Nesten Reims, avenue de Laon. Chez nous, on aime la polyvalence. Donc autant la ville qu'à la campagne, on saura répondre à toute demande et accompagner tous les projets de vie parce que ça nous tient à cœur et qu'on a ce côté humain surtout qui ressort avec le plus grand des plaisirs.
Je sais pas, il y a la patronne de l'agence dans la salle.
Oui, il y a Émilie là-bas.
Formidable. Comment elle s'appelle votre patronne ?
Émilie.
Émilie, mais vous avez de la chance, vous avez une responsable extraordinaire. Vous la gardez, hein, sinon bah, vous la piquez, hein, c'est sûr. Hein. Elle est jubilatoire. Ce qui est génial, c'est quand elle sourit, il y a tout qui sourit, de la tête aux pieds. Voilà. Elle est fabuleuse. Changez rien, hein, surtout.
Merci, c'est bon.
Bien ici, bien chez vous. Ça fait rêver.
Emma, ma chère Emma, faites-nous rêver.
Eh bien, étant donné que je suis une femme pleine de surprises, j'ai ramené avec moi un beau produit que je vais vous proposer. On va partir du côté de Courlancy, un secteur relativement prisé et dynamique, puisqu'on retrouve notamment le groupe scolaire Sacré-Cœur à côté. Je vais vous proposer un bel appartement de plus de 100 mètres carrés dans une résidence de 1980. Il faut savoir que ce bel appartement est refait de la tête aux pieds. On n'a plus qu'à y poser ses valises, même pas un petit bout de peinture, rien du tout. Éventuellement, on peut m'appeler, puisqu'éventuellement, je peux faire de la décoration aussi à mes heures perdues.
C'est génial.
On peut le faire également. On aura donc sur ces belles surfaces trois belles chambres avec encore une fois des belles superficies, une luminosité traversante. Donc du nord au sud, on a tout, le coucher du soleil, le lever, absolument tout de A à Z. Une cuisine aménagée et équipée pour avoir des super plats. Là, il ne faudra pas m'appeler par contre.
C'est la photo ?
C'est la photo en effet.
On va le retrouver, je vous permets ?
Oui,
voilà.
Je vous en prie.
Voilà. Bon, on la verra pas hein, ici, là, regardez. On la verra pas très bien à l'antenne, mais vous allez sur le site, elle est très visible, il y a toutes les photos. C'est magnifique. C'est quoi comme parquet ?
On va avoir du parquet, tout simplement.
Magnifique. Magnifique, de toute beauté. Alors, le prix, hein, combien pour se payer ce rêve ?
Pour celui-ci, nous sommes à 236 000 euros.
Et on peut y aller avec une petite famille ?
Bien évidemment. Et puis, on a quand même un grenier, on a un box et on a du confort.
Le box est inclus dans le prix ?
Bien sûr que oui.
C'est génial.
On est là pour... combler tous les plaisirs.
Et donc, on va dire, c'est à Courlancy.
C'est à Courlancy, tout à fait. Oui.
Avec un... Non, mais je ne sais jamais.
Oui, avec un Y pour Lancy. Mais sinon, vous tapez juste Nesten Reims, avenue de Laon. Mais, non, mais je ça, vous le prouverai.
Ça fait très stylé. Bonjour, vous habitez... Ou j'habite à Courlancy, voilà. Ça fait très sympa. Ça
exactement.
Fait, c'est vrai, ça fait très star. Quoi. Ou, j'habite à Vitry-les-Reims. Voilà.
Tout à fait.
ça peut être pas mal. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous avoir. On a passé un excellent moment avec vous. Mon cher public, je voudrais qu'on fasse un triomphe d'applaudissements à Jean-Charles Huberti pour les clés de l'IMO. Merci Jean-Charles. Merci. Les clés d'IMO qu'on trouve très facilement sur Internet. Et l'avantage, c'est que vous faites du syndic, de l'administration de biens et de la transaction.
Exactement.
Donc, on est habillé pour l'hiver, voilà, avec les clés de l'immobilier. Un petit clin d'œil à Lisa Mignot, qui nous entend. Certainement.
Je pense bien, oui.
Voilà, et à son papa Benoît Mignot, un grand monsieur de l'immobilier. Un immense triomphe également à Vincent Poitvin. Vincent Poitvin, trésorier de la FNIM, patron de Vitry-Emo. Vous l'avez compris, on va aller à Vitry-les-Reims pour voir cette très très belle région. À un quart d'heure, même pas, 10 minutes de voiture de. C'est carrément.
5 minutes.
Voilà, de Reims et aussi de Paris, parce qu'on peut, très bien vivre à Vitry. Les Reims, et aller à bosser à Paris. Il y a plein de gens qui le font. Et j'étais ravi de vous avoir, mon cher Vincent. Toujours un plaisir de se croiser. Voilà. Vincent, c'est quelqu'un qu'on aime. Merci. Et enfin, un immense triomphe à notre Emma Bugwald. Bon, merci, Emma. Merci à vous. Et je ne saurais trop conseiller un certain Didier. Voilà, elle est extraordinaire. Voilà, elle a beaucoup de valeur. Donc, je pense que pour Noël... Un diamant de plusieurs carats ne me semblerait pas du tout superflu.
Voilà. Tout à fait.
C'est là qu'elle dit « je le vaux bien ».
Taille 48.
Voilà. C'est là qu'elle dit « je le vaux bien ». Un immense aussi triomphe à notre ami Thomas Barbier. Merci Thomas. Avec qui nous avons construit cette émission, directeur régional Île-de-France et Hauts-de-France, chez Bien Ici, le bien nommé, bien évidemment, parce que Bien Ici, c'est bien être chez vous. On donne effectivement tous les remerciements aux équipes de Bien Ici, avec Ludivine et toute son équipe. Merci également à Karine, à Grégoire, à Alexandre, à Baptiste derrière la console, à notre super Quentin qui est venu installer le plateau ici pour être bien chez vous. On va se revoir, normalement, bientôt, sur le Tour de France. On approche des fêtes de Noël et on approche des fêtes de fin d'année qui sont l'occasion de se retrouver toutes et tous en famille. Et je voudrais qu'on ait tous également une pensée pour les enfants, les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont passer un Noël parfois dans le froid, des personnes mal logées qui vivent dans l'habitat d'urgence. Parce que Noël, c'est aussi une façon de se reconnecter à la réalité avec un peu plus d'humanité. Il n'y a pas plus humain, et je le dis, je l'assume, qu'un agent immobilier qui est dans son territoire, qui est un agent social, sociétal, qui est aussi le cœur de travailler sur des projets. Je voudrais citer notamment une campagne que nous menons actuellement avec la FNIM, puisque j'ai le plaisir et j'ai la chance d'être membre du conseil d'administration de la Fondation de France et de la Fondation I Love You, et avec lequel nous lançons un projet pour le logement intergénérationnel, pour éviter que des étudiants dorment dans leur voiture, dans des caves, et soient accueillis chez des personnes âgées, avec une association formidable qui s'appelle Cohabilis, dans laquelle on loge plusieurs milliers d'étudiants, et grâce à la FNIM, qui s'est impliquée dans ce projet, auprès des administrateurs de biens. Je viendrai vous voir, vous, Jean-Charles, justement, pour parler de ça. Si vous avez des personnes âgées qui sont un peu seules chez elles, qui voudraient avoir un peu de compagnie, vous savez, il y a ce qu'on appelle les bails civils. On descend les poubelles, on fait un peu de lecture, on aide quelqu'un. Voilà, on crée du lien social. Eh bien, vous avez un étudiant qui, au lieu de renoncer à ses études, à son projet de vie, va pouvoir se loger. C'est un drame dans notre pays. C'est plusieurs centaines de milliers d'étudiants qui sont aujourd'hui à la rue, qui ont froid l'hiver, qui ont vraiment des gros, gros problèmes. On est tous responsables de ça. Donc, je voulais faire passer ce message à l'occasion des fêtes de Noël. À toutes et à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, mais aussi des autres, parce que c'est comme ça qu'une société fonctionne. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt, bien ici, bien chez vous, sur les routes de France.
Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.